Bonjour Mathias Dandois.
Bonjour.
Page 183, c'est le dernier chapitre de Figure du bitume. Il s'appelle Apothéose et il est question des JO. En quoi ces Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été une apothéose pour vous ?
Ça a été une apothéose parce que j'ai l'impression d'avoir coché toutes les cases possibles et inimaginables en tant que sportif pendant les JO. Ça a commencé avec porter la flamme dans un endroit exceptionnel devant la Tour Eiffel. C'était un sacré cadeau de Tony Estanguet. J'ai même fait la une de l'équipe avec cette flamme dans la main, mon vélo dans la main gauche. C'était vraiment un moment très symbolique pour moi. Puis ça a continué avec la cérémonie d'ouverture.
Malgré la pluie.
Malgré la pluie sur la scène avec tous mes copains. C'était un tableau extraordinaire à la base. Bon, on n'a pas pu faire tout ce qu'on a voulu parce que la pluie. Et puis derrière, c'est 15 jours incroyables au parc urbain où j'étais ambassadeur des nouveaux sports, où j'ai pu faire des démonstrations, des tables rondes, des initiations. On a initié 200 kids au BMX et c'était fou. Et puis bien sûr la compétition avec le triplé français en BMX Race, qui est le moment des jeux pour moi. Et puis Anthony Jean-Jean en BMX Park qui chope une médaille, donc 4 médailles pour le BMX. Et puis ça a fini avec la parade des champions sur les Champs-Élysées. Donc c'est pour ça que c'était une apothéose, c'est que j'ai tout fait, quoi. Plus mon émission sur Eurosport le soir et le matin, les fêtes au Club France, le succès populaire et puis le succès sportif des Jeux. Enfin, de A à Z, c'était incroyable de toute façon.
Alors ce livre, il finit donc avec les JO, mais il débute avec le commencement. En l'occurrence, le champion que vous êtes doit beaucoup à Evelyne Thomas et à C'est mon choix, c'est une révélation. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ?
Oui, bien sûr. Moi, je suis un enfant de banlieue parisienne. Et parfois, le mercredi après-midi, il n'y a pas école et on s'ennuie un peu. Et je tombe sur C'est mon choix, donc cette émission où c'était des gens qui venaient présenter leur passion ou leur métier. Et cette fois, c'était un mec qui faisait du BMX et qui présente à Evelyne son choix de vie. C'était de faire du BMX et moi, j'étais comme un fou en le voyant parce que je venais tout juste d'arrêter le foot où j'avais un coach qui était complètement abruti et qui arrêtait pas de nous crier dessus et j'en pouvais plus. Et en voyant ce mec, je me suis dit, ah, mais c'est lui, il a pas de coach et ça c'est génial, il peut faire ce qu'il veut. Puis avec les copains à l'époque, on était dans ce délire un peu jackass, c'était le début des diffusions, des émissions américaines sur MTV, on était dans cette culture à fond, quoi. Et tout le monde achetait un skate, moi un BMX, d'autres des rollers et puis on avait ce petit crew dans Épinay-sur-Orge et puis on n'a jamais arrêté.
Votre carrière doit aussi beaucoup à vos parents, semble-t-il, parce qu'ils respectent vos choix. Votre père construit une aire d'entraînement dans le jardin. Ils vous ont jamais dit « fais des études et trouve-toi un vrai métier ».
Mes parents, je pense qu'ils ont trouvé le bon curseur pour soutenir la carrière d'un sportif de haut niveau, où ils m'ont laissé faire. C'est-à-dire, ils m'ont dit « passe ton bac et puis après, fais ce que tu veux ». Mais ils n'étaient pas non plus derrière mon dos à dire « allez champion, on va aller gagner les compétitions ». Ce qui peut être super lourd pour un adolescent, où on a des parents qui ont des attentes de dingue et ça fout une pression dingue. Et puis moi, ils ne sont jamais venus sur une seule compétition, juste ils étaient contents quand je gagnais et puis ils étaient là pour me soutenir quand je ne gagnais pas. Donc non, ils ont été géniaux pour ça. C'est vraiment important, l'entourage familial pour un gamin qui veut faire du sport de haut niveau, parce que souvent les parents disent « mais ça ne va pas, tu vas faire avocat ». Mon pote. Et alors que non, il faut laisser aux enfants la possibilité de s'épanouir dans ce qu'ils aiment, même si parfois ça marche pas, c'est pas grave, au moins il faut avoir essayé pour pas avoir de regrets. Donc je suis vraiment reconnaissant à mes parents pour ça, ça c'est sûr.
Vous devez beaucoup aussi à d'autres adeptes de la discipline qui vous ont adoubé à une époque où le BMX était un tout petit milieu, semble-t-il.
Oui, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais super fan de Alex Jumelin et des Stéréo Panda. C'était le crew incroyable en BMX. Et dès mes premières compétitions, ils m'ont vraiment pris sous leur aile. Et c'est vraiment à l'image du BMX qui est vraiment un sport de transmission, d'aide.
C'est toujours comme ça parce que vous aussi vous transmettez, semble-t-il, mais c'est quand même plus développé maintenant.
Ouais, c'est beaucoup plus développé. Du coup, on a beaucoup plus de moyens financiers pour le faire. Moi, j'ai monté une académie pour les jeunes et d'ailleurs les moins jeunes en Champagne autour du sport. On a une ferme et 15 hectares de terrain et les pros peuvent venir s'entraîner. En ce moment, on a un super jeune qui a 18 ans qui s'appelle Julien Baran, qui a fait 3e au championnat d'Europe ce week-end, qui s'entraîne pendant 2 mois là-bas. Et voilà, et c'est ma manière de redonner ce que le BMX m'a donné, puisque mes anciens partenaires m'ont donné. C'est super important de continuer cette chaîne, que ça se brise jamais, parce que sinon c'est la fin du sport.
Vous devez enfin beaucoup à la place de la Bastille et à certains spots parisiens. Vous avez passé de nombreuses heures, semble-t-il.
Ah, c'est vrai que je pense que je dois être le mec qui a le plus passé de temps sur la place de la Bastille de l'histoire de Paris. À part les mecs en tôle dans les années 1700. Mais franchement, je l'ai poncé à la place de la Bastille. Et puis, c'est marrant de l'avoir vu évoluer aussi maintenant avec ces anneaux olympiques qui sont là pile poil où je m'entraînais. Et je trouve que la boucle, elle est bouclée. Du coup, c'est chouette.
Alors, dans ce livre, vous racontez votre carrière. Vous êtes nonuple champion du monde de BMX Flatland et vous définissez comme un sport, mais aussi comme un art. Le mot, il revient souvent dans le livre. Vous êtes un sportif ou un artiste ?
Il faut être un sportif artiste pour cette discipline parce que les notations des compétitions, les critères les plus importants, c'est l'originalité et la difficulté. L'originalité, on va dire, mais comment on peut être original ? Parce que oui, on peut inventer des figures en BMX encore aujourd'hui. Et même si on a un passage extraordinairement technique, mais qu'on a copié les figures des autres, on ne fera jamais top 3. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de créer comme un artiste sur son vélo, et c'est ce que j'essaye de faire depuis 20 ans maintenant, et c'est la partie la plus intéressante de mon métier, c'est vraiment d'avoir une page blanche et se dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec mon vélo aujourd'hui, c'est trop intéressant.
Ce qui ressort du livre, c'est une espèce de grande sérénité doublée d'un immense amusement. Vous n'avez pas voulu vous étendre sur les découragements, les crises existentielles, ou définitivement c'est pas dans votre nature ?
Non, je pense que je suis quelqu'un de très positif à la base et surtout ce positivisme m'a vraiment énormément aidé tout au long de ma carrière et c'est ce que j'ai voulu retranscrire dans le livre. Je pense que l'énergie qu'on file aux autres gens, elle est très importante pour le ressenti de notre journée. Si on arrive à la caisse d'un magasin et on dit « Bonjour madame, comment ça va ?» et tout, on passe un super moment avec la caissière et je sais pas, moi ça me rend heureux. C'est un peu cheesy mais c'est comme ça. Et j'essaie d'être comme ça tous les jours. Alors bien sûr, je le suis pas comme ça tous les jours parce qu'il y a des moments un peu plus merdiques, mais le plus possible, le mieux, et c'est vraiment ce que j'ai envie de dire dans ce bouquin, c'est ça nous apporte tellement d'être un peu lumineux et sympa. Et franchement, essayez, vous allez voir, c'est extraordinaire.
Vous n'avez pas encore 40 ans, je crois. Vous êtes déjà donc livré à cet exercice de l'autobiographie. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'écrire votre histoire ?
Une psychanalyse. Non mais franchement, en plus, c'est avec le co-auteur Franck Berthaud, c'était vraiment ça le setup. J'étais dans mon canapé et puis lui, il était au bureau et puis je lui racontais ma vie. Donc on avait vraiment un setup psychanalyse et c'est trop intéressant en fait de faire le point, de faire le bilan. J'avais déjà oublié plein de trucs en fait et c'est pour ça que je suis tellement heureux d'avoir fait cette autobiographie. C'est que égoïstement, j'ai un espèce d'endroit où il y a toutes mes pensées de l'époque et que je vais pouvoir montrer à mes enfants et dont mes parents sont super fiers et mes copains, ça les fait marrer. Et je pense que c'est ça dans le bouquin. En fait, on se marre. C'est ce que beaucoup de gens m'ont dit en lisant le livre. C'est drôle, ça se lit en 3 heures et on passe un bon moment. Et c'est exactement ce que je voulais pour un bouquin qui raconte ma vie, c'est qu'on passe un bon moment.
Mathias Dandois, vous signez figure du bitume chez Flammarion, les coulisses d'une carrière par un champion qui a porté sa discipline au plus haut et qui a sans doute encore de nombreuses pages à écrire. Rendez-vous pour le tome 2. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne route.